Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Référendum aux Comores, le oui arrive largement en tête selon les premiers résultats du scrutin constitutionnel visant à renforcer les pouvoirs du président Azali Assoumani. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le journal d'État Al Watan, citant le ministre de l'Intérieur Mohamed Daoudou, qui fait état du décompte des voix dans 70% des bureaux de vote. Selon le ministre, le taux de participation sur l'ensemble du territoire aurait été de 63% dans ce référendum boycotté par l'opposition. Rappelons que lundi, les Comoriens étaient appelés à se prononcer sur une réforme constitutionnelle qui permettrait au président Azali Assoumani, élu en 2016, de se représenter pour deux autres mandats consécutifs. L'opposition qui dénonce depuis des mois les abus de pouvoir du président Azali, un ancien putschiste, avait jugé le référendum illégal et demandé à la population de ne pas se rendre aux urnes. République démocratique du Congo, l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi a officiellement demandé l'autorisation de rentrer le 3 août en RDC, où il compte déposer, avant la date butoir du 8 août, sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. Les détails avec Eric Manirakiza.
L'ex-gouverneur du Katanga a saisi la direction de l'autorité de l'aviation civile congolaise pour lui permettre d'atterrir en jet privé vendredi 3 août à l'aéroport de Lubumbashi dans le sud-est de la RDC. Tous les candidats à l'élection présidentielle doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 8 août. Monsieur Katumbi, qui se trouve actuellement à Johannesburg en Afrique du Sud, ne pourra pas le faire de l'étranger. Il a indiqué qu'il est prêt à passer par voie terrestre via la Zambie si sa demande était refusée. Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. Il est également poursuivi pour recrutement de mercenaires et la Cour suprême a renvoyé le procès au 10 octobre. Ancien bras droit du président Joseph Kabila, M. Katumbi est passé à l'opposition en 2015.
De son côté, l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, leader du MLC, le mouvement de libération du Congo, a annoncé son retour en RDC pour demain mercredi. Il atterrira à Kinshasa en provenance de Bruxelles et non plus ce mardi dans son fief de Gemena, dans le nord-ouest du pays. Élection au Zimbabwe, les deux principaux candidats à la présidentielle du 30 juillet, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Chamisa, se sont dit confiants ce mardi dans leur victoire aux élections générales d'hier. Les premières depuis la chute de l'ex-président Robert Mugabe après près de 4 décennies au pouvoir. Les résultats officiels des élections présidentielles, législatives et municipales qui se jouent essentiellement entre la ZANU-PF, le parti aux commandes depuis l'indépendance du pays en 1980, et le MDC, le mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamisa, n'ont pas encore été annoncés. Un nombre record de 23 candidats étaient en lice pour la présidentielle. Pour une analyse, Timothée Donangmaï a joint le professeur David Zunmenu Dosu de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria en Afrique du Sud.
Ce scrutin marque un tournant décisif dans l'histoire politique du Zimbabwe par rapport aux turbulences que ce pays avait connues sous le règne de Robert Mugabe. Mais c'est aussi un processus électoral qui va conférer la légitimité au successeur de Mugabe, que celui-ci soit de l'ancien parti au pouvoir ZANU-PF ou bien de l'alliance de l'opposition dirigée par le mouvement pour le changement démocratique. C'est une étape très importante dans la normalisation de la vie politique du Zimbabwe après le départ précipité et organisé de Robert Mugabe.
Robert Mugabe qui a dit qu'il ne votera pas pour les dirigeants actuels, quel est son poids politique?
Robert Mugabe demeure un acteur très important sur la scène politique au Zimbabwe. C'est aussi une incarnation de la libération nationale du pays. Mais je pense que sa sortie médiatique à quelque chose de vengeance est venu un peu tard dans ce processus électoral. Certainement qu'il s'attendait à quelque chose. Va-t-il être suivi par les caciques ou certains fidèles du régime? Certainement. Vont-ils faire le poids et faire basculer les résultats au profit de l'opposition? On n'est pas très sûr. Ce qui est certain, c'est que le Zimbabwe est engagé dans un processus irréversible. Et sauf erreur ou sauf dépatouillage, le pays pourrait avoir un président issu des urnes dans un processus qui peut être qualifié de crédible ou entaché d'irrégularité, ce qui replongerait le Zimbabwe dans une crise politique permanente.
Qu'en est-il des anciens combattants de la lutte de libération qui avaient rompu avec Mugabe peu avant son départ du pouvoir?
Je pense que tous ces anciens combattants se sont aujourd'hui alignés derrière Emmerson Mnangagwa, celui qui incarne le renouveau de Zanu-PF pour le parti de Robert Mugabe. Et ce sont ces gens qui maintenant essayent de redorer le blason du parti, de coopérer avec lui. Évidemment, certains ont essayé des actions pour empêcher le processus d'aller jusqu'au bout avec les attentats il y a quelques mois contre le président Emmerson Mnangagwa. Mais également, il y a certains observateurs qui estiment que ces attentats ont été organisés à l'intérieur du parti pour accroître la visibilité ou la sympathie des populations à l'égard de Mnangagwa. Mais l'opposition aussi appuie ses armes et se dit que le discours sur l'allégeance aux héros de libération est fini et atteint. Et pour que le Zimbabwe tourne la page et permette aux nouvelles forces politiques de proposer de nouvelles idées pour sortir le pays de la misère.
Le professeur David Zoumenou-Dossou de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria en Afrique du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
République centrafricaine, l'Union européenne a décidé lundi de prolonger pour 2 ans sa mission militaire de formation en RCA. Son mandat est étendu jusqu'au 19 septembre 2020. De Bangui pour VOA Afrique, le compte-rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
En plus de cette prolongation, le Conseil de l'Union européenne a également modifié le mandat de la mission. Son domaine d'intervention s'étend désormais sur plusieurs volets. EUTM-RCA peut donner des conseils stratégiques non seulement au ministère de la Défense, au personnel militaire et aux forces armées centrafricaines, mais aussi au cabinet du président de la République. Cette collaboration devra se faire aussi sur la coopération entre civils et militaires, y compris au ministère de l'Intérieur. Le Conseil a débloqué une enveloppe d'environ 25,4 millions d'euros pour les coûts d'EUTM-RCA qui est basée à Bangui pour la période du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2020. Cette mission d'entraînement et de formation de l'armée centrafricaine a été lancée le 16 juillet 2016. Elle compte environ 170 personnes. Au terme de son premier mandat de 2 ans, l'EUTM a formé et entraîné plus de 3000 soldats centrafricains. Cette décision intervient au moment où plusieurs régions du nord du pays échappe au contrôle de Bangui, car morcelé par des groupes armés qui y pillent les ressources naturelles. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent ce mardi à Lomé pour discuter de la crise politique qui secoue le Togo depuis près d'un an, après des mois de négociations au point mort entre le pouvoir et l'opposition. Également au programme, la situation politique en Guinée-Bissau et l'élection présidentielle au Mali. Actualité américaine maintenant, rencontre à la Maison-Blanche lundi entre le président Donald Trump et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Il a beaucoup été question de politique étrangère, notamment de la Russie et de l'Iran. Nicolas Pino nous en dit plus.
Très offensif face à la presse, le président Trump a déclaré que les sanctions américaines contre la Russie seraient maintenues dans l'État. De son côté, Giuseppe Conte s'est dit favorable à des discussions avec la Russie. Sur l'Iran, le président américain s'est dit ouvert à une rencontre avec les dirigeants iraniens quand ils veulent, sans conditions préalables. Une main tendue qui tranche avec les déclarations belliqueuses de Washington et Téhéran la semaine dernière, où par déclaration interposée, Hassan Rouhani et Donald Trump se mettaient chacun en garde contre toute provocation. Sur le plan intérieur, Donald Trump a réitéré sa menace de laisser le gouvernement fédéral fermé s'il n'obtenait pas les fonds pour la construction d'un mur de sécurité à la frontière mexicaine. Le temps presse pour les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants et le Sénat, mais qui pourraient perdre l'une des deux chambres du Congrès suite aux élections de mi-mandat en novembre prochain.
L'Iran a réagi à l'offre de pourparler du président américain Donald Trump en soulignant que le chemin menant à des discussions directes avec Washington devrait inclure notamment le retour des États-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien dont s'est officiellement retiré le président Trump. Et pour terminer, relations États-Unis-Rwanda, Washington a suspendu les avantages commerciaux dont bénéficiaient les vêtements importés du Rwanda, répondant ainsi aux droits de douane imposés par Kigali sur les importations de vêtements d'occasion, accusé de nuire à l'industrie textile locale. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.